L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Salut les amis du plateau, j'espère que vous passez un hiver au chaud, avec les bonnes journées bien occupées au bois ou dans les maisons à préparer les renouveaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé une série de portraits de forestières et forestiers avec Adrien le bûcheron en onde numéro 30, Nicolas le débardeur à cheval dans l'onde du bois 33, Andy le sylviculteur dans l'onde 35, Suzanne la gestionnaire dans l'onde 36, et d'ailleurs que vous pouvez d'ailleurs réécouter à loisir en podcast hein, sur l'onde du bois Radio Vassivière. Eh bien là, pour continuer cette série de portraits, je vous emmène à la rencontre de Stéphane Dupré, chauffeur de porteur forestier, un spécialiste du débardage mécanisé. Ça fait plus de 15 ans d'ailleurs qu'on se croise en forêt avec Stéphane et j'ai d'excellents souvenirs de chantiers avec lui sur des chantiers de récolte de bois dans des peuplements mélangés à couvert continu. Stéphane, un forestier passionné par la forêt, son métier, avec chaque jour l'envie de travailler pour l'avenir d'une forêt durable, en vie et prospère. Rencontre. Et bonjour Stéphane.
Bonjour Lionel.
Je suis ravi de te recevoir ici à Mémac. Écoute, merci pour avoir accepté mon invitation à ce portrait de forestier. Et donc, je vais te laisser te présenter. À nos auditrices et auditeurs. Allez, c'est parti.
Eh bien, merci de nous donner la parole déjà. Donc, moi, c'est Stéphane Dupré, 53 ans. Et depuis une bonne trentaine d'années en forêt, on va dire, avec un début, on va dire, d'études dans la mécanique, un diplôme en mécanique, et après l'armée, une orientation forestière. Donc, bûcheronnage pendant 2 ans et après une orientation sur le débardage, le retour à la mécanique, on va dire, puisque les engins déjà étaient d'actualité. Et donc, retour après en débardage depuis une grosse vingtaine d'années en débardage, on va dire. Bois court avec porteur, bois court, bois long aussi d'ailleurs, et puis après une petite dizaine d'années, un peu au milieu, en conduite de machine d'abattage.
Ok, et tu t'es formé à ces techniques de débardage où alors t'as été formé ?
Au CFPPA de Mémac.
À Mémac.
Le bûcheronnage et débardage, j'ai fait mes 2 formations au CFPPA de Mémac.
D'accord.
Voilà, donc un ancien, on va dire... Élève,
stagiaire, apprenant.
Voilà. C'est le mot apprenant.
Super. Bah écoute, et alors donc, toi, tu travailles. Alors sur ton parcours, si j'ai bien compris, tu as appris à débarder autant les bois courts. Tu faisais bois court, bois long.
J'ai eu la chance quand j'ai commencé à débarder, donc dans les années 90, début 90, j'ai eu la chance de tomber. Mon premier patron avait un engin qui n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui au niveau, on va dire, confort et technologie, mais qui avait une pince à grume et donc on faisait bois court et bois long déjà à l'époque. Aujourd'hui, la pince revient un peu sur la région et même grandement revenue, la pince à grume, pour remplacer les skideurs. Mais à l'époque, c'était pas. Il y en avait quelques-unes quand même dans le secteur, mais on était en même temps bien moins de forestiers. Donc j'ai eu la chance de connaître ça déjà dès mes débuts, quoi, de débarder du bois long avec des engins à la base prévus pour du bois court.
Ok, et les bois étaient assez gros déjà à l'époque, on parle de quelle année là, 90
80, ouais, moi j'ai commencé fin 90, début 91, fin 90 j'étais en formation en débardage, et début 91 j'ai commencé, on va dire, chez des patrons quoi.
D'accord.
Voilà quoi, donc j'ai connu ça.
Tu peux les citer, hein, on peut citer les patrons.
Le premier patron c'était Thierry Cueil dans le Cantal, après il y a eu la crise de 93. Donc il y avait une grosse baisse d'activité sur la région Auvergne-Limousin, mais vraiment une très très grosse baisse. Comme on tournait en poste sur l'engin à l'époque, il m'a pas gardé, il pouvait pas me garder. Et c'est là que je suis monté 2 ans en région parisienne, toujours dans du débardage, mais en région parisienne. Donc ça avait rien à voir au final, parce que les engins étaient beaucoup plus petits, les contraintes environnementales étaient beaucoup plus exigeantes, les terrains ne sont pas du tout les mêmes.
Ouais.
Donc ça a été une belle expérience aussi. Et je suis redescendu après en 95 l'entreprise Mariac. J'ai beaucoup bougé moi, donc voilà. Après j'ai fait, je suis passé chez Fernand Métadier. J'ai travaillé à l'entreprise Mazo à Feltin, qui n'existe plus. J'ai travaillé après à Mécafor.
D'accord.
C'est là que j'ai conduit les machines, que j'ai commencé à conduire les premières machines à Mécafor. Et après, José Julien et...
Ok, les premières machines, donc porteurs, c'est ça enfin, donc,
Les premières machines d'abattage.
Les premières machines d'abattage.
Ouais, les premières machines d'abattage, c'était à Mécafor que je les ai conduits. Ouais. J'ai fait une dizaine d'années en conduite d'abattage.
Ok.
Voilà, et après Mécafor, je suis passé, après Julien, je suis passé au CFPPA, à Mémac, en tant que formateur. Et après, je suis reparti salarié, un peu au comptoir des bois, où je faisais les deux, machine et porteur, plus ou moins en remplacement, puisque je suis polyvalent là-dessus. Quoi. Et après, je me suis installé en débardage, quoi, à mon compte, en débardage au porteur. Quoi.
Voilà, donc un porteur.
Depuis 2015.
Un homme, un porteur, une entreprise.
Voilà.
Et tu proposes tes services sur de la prestation de services
Tout à fait, ouais.
En débardage.
En sous-traitance, ouais.
Voilà. D'accord. Donc alors justement, ce métier, t'as beaucoup bougé, t'as vu le métier évoluer en fait
dernières années. Ça, c'est une grosse chance aussi qu'on a eue, je pense, de notre génération, c'est qu'on est parti sur des engins qui étaient entre guillemets archaïques, quoi, qui étaient de la mécanique pure et dure, quoi. Qui était moins compliqué que maintenant, mais au niveau confort, ça avait strictement rien à voir. Hein, mais c'est le jour et la nuit. C'est comme si on prend une voiture d'il y a 50 ans, je dirais, et une voiture de maintenant. Quoi. On est à peu près au même niveau d'évolution, hein, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Ouais. Et ça a été assez intéressant à voir. On a même vu les débuts des machines d'abattage, puisque c'était les tout débuts à l'époque, hein, en 90. Il y en avait, je sais pas, peut-être 3 en France, on va dire. Maintenant, il y en a 3 au mètre carré, donc ça a changé. Quoi. L'évolution a été... Mais après, c'était une belle évolution au niveau du matériel. Ouais. C'est bien d'avoir connu ça.
Alors, on va revenir sur la densité de machines au mètre carré. Mais avant, du coup, comme on parlait des engins, est-ce que toi, donc je disais un homme, une machine, une entreprise, est-ce que tu peux nous parler de comment tu t'organises au niveau de ton activité et est-ce que tu peux décrire aux auditeurs de Radio Vassivière l'engin forestier avec lequel tu travailles?
Alors celui que j'ai à l'heure actuelle, c'est un engin, on va dire, qui aujourd'hui est considéré milieu de gamme en tonnage. Donc c'est un Rottne F15, ce qui est assez rare dans la région, c'est une marque suédoise. Il y a très très longtemps que j'en voulais un, donc même si je dois arrêter ma carrière demain, je serais content parce que j'aurais réussi encore mieux. Hein. Une très belle machine, donc c'est milieu de gamme. Un porteur moyen, on va dire, c'est un 15 tonnes de charge, qui est assez polyvalent, parce qu'en étant tout seul, il faut garder un engin polyvalent, ni trop petit, ni trop gros, pour pouvoir tout faire, au final, éclaircir, couperaser, et être rentable, quels que soient les terrains. Et après, le métier, on va dire, l'organisation, elle est assez souple, hein. Elle a toujours été souple, même quand j'étais salarié, parce qu'on est quand même très autonome, normalement. Enfin, maintenant, ça change un peu, ça évolue, parce que les gens ont du mal à gérer l'autonomie. Mais en gros, l'important, on va pas forcément nous imposer des horaires à heure fixe, mais l'important, c'est que le travail soit fait, et bien fait, et dans des délais, dans les délais normaux, quoi. Donc après, moi, je suis beaucoup du matin, donc j'ai tendance à attaquer tôt le matin. Et après, l'organisation, on se fait les horaires un peu... Alors, ce n'est pas du 35 heures, ça par contre, faut pas... Ouais. Celui qui cherche les 35 heures, il ne faut pas qu'il vienne là. Ce n'est pas compatible. Mais par contre, on a encore cette autonomie, on va dire. Et puis, pour moi, c'est un avantage, c'est un peu la liberté, on va dire. Ouais. Ben, si on veut boire un café de plus à midi et discuter avec les collègues un peu plus, on peut prendre une demi-heure de plus et on rattrapera le soir ou le lendemain matin. Enfin, on a quand même une certaine souplesse.
Mais c'est toi le patron ou c'est toi qui organise
le
travail?
Mais même en tant que salarié, à la limite.
Même en tant que salarié.
Un bon salarié, son patron ne va pas l'emmerder parce qu'il arrive à 8h30 un matin, alors que tous les matins, il arrive à 7h30 et un jour, il a... Ou alors, c'est que le patron est con. Quoi, mais je veux dire, il faut savoir, ça fait partie des avantages du métier pour moi, des horaires, on va dire, une certaine souplesse dans l'organisation des horaires.
Okay.
Et puis après, nous on est très tributaires de la météo, donc là depuis un an et demi on souffre parce que c'est assez compliqué, enfin, mais on est en débardage, on est très tributaires de la météo. Ouais. Donc des fois, faudra savoir s'arrêter quand le temps est trop mauvais et en faire un peu plus quand le temps va mieux. Ça fait partie de l'organisation. Après, il faut être autonome. C'est un métier qui demande une bonne autonomie, on va dire, une bonne conscience professionnelle.
Une bonne connaissance de l'engin, du coup. Tu as des bonnes connaissances en mécanique aussi.
Ouais, en mécanique, il ne faut pas être un expert non plus. Maintenant, ça devient quand même très, très informatique et tout. Mais il faut connaître, on va dire, les principaux composants et le fonctionnement général de l'engin, histoire déjà de pouvoir se dépanner éventuellement ou d'aiguiller un mécano au téléphone sur une éventuelle panne. Après, les engins sont quand même très fiables aujourd'hui. Si on prend soin de sa machine, on est quand même très peu embêté. La fiabilité des engins a énormément progressé, on va dire.
Donc là, on est sur le porteur, hein, c'est un joli porteur bleu ciel et jaune, hein, c'est des Suédois, hein, c'est une marque suédoise. Donc tu travailles principalement sur quel type de coupe, tu fais tout type de coupe, hein.
Moi, tout type de coupe, en grosse majorité derrière bûcheron, parce que les clients pour qui je travaille, me fournissent ce genre de travail. Donc, je travaille encore beaucoup derrière bûcheron, très peu derrière du mécanisé, et éclaircie, coupe rase. Après, ça, on choisit pas au final. C'est suivant ce qui arrive, quoi. Sachant que j'ai quand même beaucoup plus de goût à débarder une belle éclaircie qu'aura de l'avenir, qu'à faire une coupe rase bête et méchante.
Travailler sur autant du feuillu que du résineux
Beaucoup plus en feuillu.
Beaucoup plus en feuillu, ouais. Donc tu travailles plus avec des produits type bois de chauffage
Ça peut être bois de chauffage, traverse, grume, après trituration. Tous les produits qu'on peut sortir en feuillu au final.
Ah oui, tu peux prendre des grumes avec ton porteur
Oui, parce que j'ai la pince, moi. Donc j'ai la pince à grume, donc je suis équipé avec, donc je peux faire du bois long avec, ouais.
Ah, c'est super, ça c'est une innovation technologique. Enfin, on n'en voyait pas beaucoup des porteurs avec. On appelle ça un clembank, c'est
ouais,
ça ?
Oui, c'est le nom anglais, ouais. Voilà, après, il y en avait déjà il y a 30 ans, et moi j'ai connu ça il y a 30 ans. Après, c'était un peu passé, on va dire. Les bois longs se faisaient de moins en moins, alors que maintenant on en fait plus. Et aujourd'hui, c'est quand même pas mal revenu. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui se sont équipées en pince à grumes sur porteur. Quoi.
Ok, ouais. Donc tu fais aussi des bois d'œuvre de qualité. Voilà, où d'ailleurs, il faut être soigneux au débardage, quoi, j'imagine, et sur les sols forestiers.
Il faut être soigneux dans tout, au final. Moi, je pars du principe que la forêt nous fait vivre. Ouais. Donc si on la massacre, au final, on se tire une balle dans le pied. La forêt, c'est du long terme, hein. c'est pas on plante les graines et on ramasse les tomates 3 mois après, quoi, je veux dire. Une forêt, c'est au bas mot, pour moi, c'est 90 ans sur du résineux et 250 ans sur du feuillu. Sans parler de coupe rase, même en régénate, donc c'est vraiment sur du long terme, donc il faut essayer de travailler pour l'avenir, quoi. Donc il faut préserver autant que faire se peut. Mais ça, c'est pas un travail que de débardeur, c'est le travail du gestionnaire, du bûcheron, du débardage, de toute la filière.
Du propriétaire, toi, tu vois souvent les propriétaires, les gestionnaires, parce que on pourrait se dire, il est tout seul dans son engin, mais tu vois du monde quand même en forêt.
Alors, on est souvent seul, faut pas se le cacher, on est quand même souvent seul, faut pas le gars qui craint la solitude, ça va être compliqué pour lui. Il y a quand même des très belles rencontres, ça arrive, c'est pas systématique, mais on peut rencontrer les propriétaires. Après, nous, on a affaire à notre donneur d'ordre, hein, au technicien qui gère le chantier, donc là, c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement. Et puis après, ça peut arriver qu'on voit les gens qui vont passer derrière, qui font de la gestion forestière plus que le négoce du bois. Ça ouvre à des discussions et à ce qui peut se faire dans la forêt plus tard, ce qui est prévu pour la forêt. Enfin, on peut être informé effectivement du global de la gestion de la parcelle, quoi.
Justement, ça me rappelle, je me rappelle hein, d'une question que j'avais posée à Adrien, le bûcheron, sur la perception de ce métier de bûcheron qui est quand même un des plus vieux au monde, depuis que l'homme est homme, en fait. Et donc, le débardeur, le porteur forestier, c'est la suite logique du bûcheronnage. Et par rapport à ça, justement, ce métier ancien que tu as vu un peu évoluer là, sur ces 30 dernières années, comme c'est un vieux métier, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui peuvent s'y opposer ? À ce type de métier de débardeur
Déjà, avant de s'opposer à quelque chose, il faut apprendre à le connaître. Donc moi, je ne vais pas aller parler de choses que je ne connais pas, ou critiquer des choses que je ne connais pas, plutôt. Il faut déjà essayer de s'informer, il faut toujours prendre du recul. Déjà, effectivement, si on veut aller acheter du bois à Monsieur Bricolage ou dans quelle autre structure, ou dans n'importe quelle scierie, acheter une planche pour faire une étagère ou quoi que ce soit, ou des meubles... Le bois, il faut qu'il sorte de la forêt, il n'y a pas photo. Donc après, comme j'ai déjà dit, moi, je ne suis pas là pour massacrer la forêt, j'en vis. Donc il faut la respecter. Après, il y a des choses à mettre en place, mais ça, c'est la vie de tout le monde. Après, celui qui est contre, qui est systématiquement contre, moi, je suis très ouvert au débat. Il y en a déjà qui sont venus me crever les pneus. C'est des lâches d'un niveau, on va dire, haut de gamme, puisque s'ils ont quelque chose à me dire, moi personnellement, je ne suis pas le propriétaire, c'est pas moi qui ai décidé de couper, c'est pas moi qui ai décidé d'acheter les bois. Donc là, c'est du s'en prendre au matériel. Déjà, ça ne fait pas avancer le schmilblick et ça ne résout pas les problèmes. Si problème il y avait sur ces couples-là en plus. Mais moi, je suis ouvert à la discussion. Les gens qui veulent venir en parler, on en parlera. Ils me donnent leur argumentation. Moi, je donnerai la mienne. Le bois, il faudra qu'il sorte d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des choses. Moi, je ne suis pas en accord du tout avec tout ce qui se fait en forêt. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui, en gestion, m'irrissent le poil parce que je ne vois pas ça logique. Et je suis contre l'industrialisation de la forêt. Pour moi, on peut gérer une forêt, on peut largement sortir autant de volume qu'on en sort à l'heure actuelle avec une gestion différente. Après, par contre, il faut bien mettre tout à plat sur la table. L'industrie, ça lui coûtera plus cher et l'industrie n'aime pas quand ça lui coûte cher. Donc après, il faut bien cibler les bons responsables. Mais voilà, encore une fois, on a envie de la forêt. Donc sur du long terme, si on y réfléchit, il faut en prendre soin.
Ouais, tout à fait. Et puis en plus, ça, je me souviens, on avait travaillé ensemble sur une coupe, justement en futaie. C'est une conversion avec Avenir Forêt. Hein. C'est un bon chantier. D'ailleurs, c'était technique. Les cloisonnements n'étaient pas tout droits. Il fallait contourner les arbres remarquables. Et ça, justement, cette technicité, tu l'aimes aussi, toi. Enfin, on va pas à l'encontre de ça, quoi. Il y a une recherche de... Enfin, il faut se méfier d'aller trop vers la simplicité.
Après, autant je ne suis pas à 200% sur du systématique, c'est clair, autant il faut faire la part des choses. Les gens qui sont contre la mécanisation, moi, je les invite à venir, à reprendre une hache, une cognée, un passe-partout, à couper les arbres à la main, hein, il n'y a pas de problème, et après, à les débarder à cheval ou à la traîne en traîneau, comme ils font des fois en montagne ou des choses comme ça, je les invite à le faire. Et les stars de l'écologie comme les profiteurs d'Hugo Clément ou des gens comme ça, je les invite à venir, à faire le travail à la main, puisque la mécanisation, c'est de la merde et soi-disant, ça détruit tout. Mais voilà, et après, on en reparle. Parce que les gens, c'est facile de critiquer. Par contre, moi, j'ai commencé comme bûcheron, donc j'ai un très, très grand respect pour les bûcherons, parce que je sais que c'est un travail qui est pénible, qui est très pénible. Et quand on arrive en principe à 60 balais et qu'on a fait 30 ans de bûcheronnage, on n'est pas forcément en super forme. Surtout qu'à l'époque, moi, je faisais que du ster. Hein. Donc, il faut l'empiler. Donc, c'est voilà. Et j'invite ces gens-là à venir. Et une semaine, on va dire une semaine, parce qu'il faut être objectif. Et par contre, à la fin de la semaine, ils auront la paye qu'ils ont gagnée en faisant le travail. Et on verra combien ils bouffent aussi à la fin du mois. Il faut faire la part des choses dans tout. Et les vrais coupables ne sont pas souvent à la base. Si coupable il y a, parce qu'après il faut pas partir. Quand je vois certaines vidéos qui nous tapent dessus, il y a un bourrelet de 20 cm, le gars dit qu'il y a un trou de 2 mètres. Quoi. Donc, déjà, ou il a un problème en maths, ou il manque d'objectivité, il faut être objectif. Il faut pas attirer. Nous, il faut pas non plus qu'on défende systématiquement le bout de gras en disant c'est nous qui avons raison, mais de l'autre côté, ils ont pas forcément raison non plus. Il faut un minimum de recul et d'objectivité.
Après, le « nous », il est aussi à relativiser parce que tout le monde n'a pas les mêmes pratiques que toi, aussi respectueuses. Toi, tu as un recul lié à ton expérience, à ta formation. Tout le monde aussi n'arrive pas à ce métier-là par les mêmes vecteurs que toi, par exemple. Hein, tout le monde n'est pas arrivé à devenir débardeur grâce à une formation, même si aujourd'hui, il faut une formation, c'est clair. Et tout le monde aussi n'a pas la même sensibilité. Que toi par rapport à la gestion forestière.
Oui, certainement. Après, il y en a aussi qui sont là, qui font mon métier, mais qui sont là plus pour l'argent que... Ouais, voilà, quoi. Après, moi, je dis, je ne suis pas là que pour... Je ne suis pas un altruiste. Hein. Il faut que je mange. À la fin du mois, je suis comme tout le monde. Hein. Mais après, effectivement, il y a des jours où je m'arrêterai parce que je me dis que si je continue, je vais trop détruire et ça, c'est contre-productif. Mais c'est une philosophie. Après, je me mets aussi à la place des gens qui ont des salariés, qui ont des engins qui coûtent très cher, et je me mets aussi à la place de ces gens-là. Donc après, on part. C'est un débat qui peut être très long, mais qui est nécessaire pour moi, mais qui peut être très long avec des gens objectifs et qui ont envie de s'écouter. Hein. Si les gens n'ont pas envie de s'écouter, il ne faut pas faire le débat. Mais il y a un problème, un peu comme dans l'agriculture, de répartition des tarifs chez nous. Donc forcément, la base n'est pas forcément la mieux payée et ça nous met des contraintes supplémentaires, on va dire. Après, voilà, il faut faire le ménage chez soi, dans sa corporation, et faire le ménage aussi dans les contradicteurs systématiques. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème. Mais avec des gens qui ont envie de s'écouter. Pas avec des gens qui ont la science infuse et qui ne savent pas faire la différence entre un chêne et un épicéa, quoi. Mmh. C'est ça ne m'intéresse pas, quoi. Il n'y a aucun intérêt, quoi.
Et alors, bah, bon, on va arriver au terme de cet entretien qui est fort intéressant. On continuerait à en parler des heures avec toi. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune aujourd'hui qui veut devenir débardeur?
Voilà, moi quand j'étais formateur, les gros atouts que j'ai toujours mis en avant, c'est la liberté des horaires, déjà. Pour moi, c'est quelque chose qui est... La plus grosse pression que j'ai eue, outre gérer l'administration qui est ingérable en France quand j'étais formateur au CFPPA, c'est les horaires. Voilà, c'est avoir des horaires fixes, c'est ce que j'ai eu la chance de ne pas avoir, on va dire, dans ma petite vie. Et je trouve que c'est un confort et un luxe. Je trouve que c'est un luxe. Après, il faut être capable de s'auto-gérer. Donc attention, c'est aussi une contrainte. C'est un avantage, mais c'est aussi une contrainte. La personne qui n'est pas capable de se mettre de la rigueur et de s'autogérer, elle ne sera pas capable de faire ça, quoi.
Et donc un jeune, il faut qu'il soit quand même déjà... qu'il arrive à faire son métier correctement, quoi, pour pouvoir ensuite avoir cette souplesse dans une flexibilité dans le travail, quoi, dans son temps de travail. Du coup, il a quand même un objectif à atteindre journalier. C'est quoi à peu près l'objectif, d'ailleurs, par jour, à peu près, pour...
Alors aujourd'hui, pour un porteur, il faudrait sortir, il faudrait tourner, on va dire, à 1 200 € par jour, quoi, de chiffre d'affaires hors taxe. Donc après, suivant les tarifs qu'on a, il faut adapter, on va dire, essayer de faire le rendement qui fasse que, parce que c'est pas le tout de sortir 200 stères ou 500 stères. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres, donc c'est le domaine basique de l'argent. Donc pour être bien aujourd'hui, il faudrait sortir 1 200 € par jour travaillé, quoi. Au départ, le jeune, il faudra qu'il fasse un peu d'effort. Quand il aura un peu de métier, un peu de maîtrise, parce que ça ne s'apprend pas en 6 mois, quoi que certains disent, ni en un an. Mais avec 3-4 ans d'expérience et des bons conseils et une bonne curiosité, parce qu'il faut beaucoup s'intéresser à ce que font les autres, comment ils s'y prennent, il faut être curieux pour progresser, comme dans n'importe quel métier, je pense. Et quand il a déjà 3-4-5 ans d'expérience, il peut commencer à avoir des bonnes bases et acquérir une, entre guillemets, une certaine liberté et une certaine souplesse. Voilà, quoi. Il sera capable d'être, on va dire, déjà un bon début d'autonomie et des rendements normalement corrects.
Alors, j'ai vu un de tes futurs stagiaires, là, d'ailleurs, tu continues même à former, même en étant toujours entrepreneur à ton compte. Tu formes encore des stagiaires du CFPPA.
Ben, j'estime que moi, j'ai eu la chance qu'on me donne ma chance, c'est le cas de le dire. Quand j'ai commencé, le premier patron, Thierry Cueil, qui m'a embauché, il m'a donné ma chance au final. Les conditions étaient plus tranquilles qu'à l'heure actuelle, les pressions financières sont plus fortes aujourd'hui. Mais si on veut que les gens aient de l'expérience, il faut leur donner leur chance un jour. Donc quand je peux me permettre, c'est avec plaisir, oui, que je prends des stagiaires et que j'essaye de leur mettre le pied à l'étrier, on va dire.
Super, et écoute, merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à mes questions. Et puis à très bientôt, hein, on se revoit dans les bois du coup.
Eh bien, au plaisir, et puis encore une fois, merci à toi de nous donner la parole.
Merci beaucoup Stéphane, salut. Super top Stéphane. Et en parlant avec toi, j'ai bien entendu ton appel à vivre ce travail. S'impliquer dans le temps, vivre toute sa vie professionnelle, sa passion à travers son métier et de l'intérieur, le faire évoluer, l'améliorer. Nos forêts ont besoin de forestiers qui, au-delà d'une amélioration des pratiques, sont capables de se remettre en question et de s'améliorer soi-même. Pour cet entretien, merci Stéphane. Et pour la chronique, comme la coutume l'exige, eh bien j'ai laissé le soin à mon invité de choisir son morceau de musique. Alors voici venir, ou plutôt revenir, à nos oreilles d'ici cet hymne au chant du possible, cet hymne à la liberté, à l'appel d'un changement ailleurs, ici, là-bas, de Jean-Jacques Goldman sur Radio Vassivière. Allez Jean-Jacques, c'est à toi.
Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. tu as la force et la foi. L'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas.
Ce sera la